Bonjour et bienvenue dans Certains Les Machos, l'émission qui prend le soleil avec les films à la sortie. Salut Thierry.
Salut Thomas.
Aujourd'hui dans Certains Les Machos, Midsommar.
Factory.
Les faussaires de Manhattan.
Mon frère.
C'est déjà plus modeste que la semaine dernière, mais ça reste bien sympa. Peu de films, mais un film très attendu, Midsommar. Et pour aller voir le film de la semaine, Hera nous a rejoint. Salut Hera.
Salut Thomas.
Midsommar de Ari Aster. Ari Aster qui nous avait livré Hérédité l'an dernier. Surprenant et remarqué chez les amateurs du genre.
J'ai pas vu Hérédité, mais j'attends ce film parce que l'esthétisme a l'air plutôt très beau. L'histoire peut me plaire et j'ai été charmé par la bande-annonce. Donc j'attends pas spécialement quelque chose en particulier, mais je suis content de le voir.
J'ai adoré Hérédité, contrairement à mon comparse en face de moi qui me fait des grimaces.
Je n'ai rien dit, je ne fais même pas de grimaces.
Oh, tu en fais tellement intérieurement, ça se voit dans ton regard. Hérédité était pour moi l'un des meilleurs films de l'année dernière, en tout cas dans le cinéma de genre. On l'a pas forcément mentionné, on l'a pas forcément mis même dans les best-of ou quoi que ce soit parce qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord là-dessus. Et je peux comprendre, c'est un film qui divise énormément, c'est un film où il y avait une atmosphère très particulière, où il fallait accrocher. Donc tous ceux qui sont restés extérieurs, je les comprends parfaitement, ça aurait pu tout à fait être mon cas, cette fois-ci ça a marché, ça aurait pu ne pas l'être. J'ai beaucoup aimé, c'est con à dire parce que c'est ce que je trouve très pénible généralement, mais j'ai aimé le rythme d'Hérédité. Le côté extrêmement lent, où en fait on a l'impression qu'il ne se passe absolument rien, mais au bout d'un moment, quand tout commence à exploser, on se rend compte que tout a été parfaitement mis en place et que tout est déjà là et que du coup, non, il y a eu énormément de choses. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié. Donc je ne sais pas du tout sur quoi il part, je ne me suis pas immensément renseigné sur Midsommar pour justement garder la surprise. On m'a dit qu'il y avait un nouvel Ari Aster, j'ai très envie de le voir.
Alors je n'ai pas grimacé, je n'ai rien dit, mais c'est vrai que je n'ai pas aimé du tout Hérédité parce que je me suis profondément ennuyé. Il y a une recherche esthétique, ça c'est sûr. D'ailleurs, il y a un très beau plan en fait sur une maison de poupée. En fait, on s'aperçoit que c'est pas une maison de poupée. On arrive dans la chambre d'un des personnages. Donc, il y a beaucoup de symbolique et autres. Il y avait beaucoup de choses dans ce film. C'était un premier film, alors peut-être que c'était un mec qui voulait en mettre trop, qui mettait énormément de choses, même des choses qui n'étaient pas très utiles au récit. Ça part un peu dans tous les sens pour en fait que l'histoire ne commence que dans la dernière demi-heure. On avait une Toni Collette en roue libre qui en faisait des caisses. Qui n'était pas dirigé, quoi. Voilà. On avait un Gabriel Byrne qui était là, il ne savait pas trop où se mettre.
Je ne suis pas du tout d'accord avec ce que tu viens de dire, en tout cas sur la direction d'acteur, parce que je l'ai trouvé. Bon, même si je pense que le truc sur lequel Ari Aster s'est appuyé, c'est que Toni Collette est tellement excellente dans le cinéma de genre, qui s'est dit que ça ferait le taf tout seul. Donc peut-être que toi, tu as remarqué du cabotinage, là où moi, peut-être que j'étais trop pris dedans.
Alors, on faisait des tonnes.
Ça ne m'a pas forcément marqué. Moi, le seul truc à la limite sur lequel je veux bien te rejoindre, et ce qui, moi, m'a déçu, c'est même pas la dernière demi-heure, c'est les dernières 5 minutes où il s'est senti obligé, pour ceux qui avaient raté depuis le début du film, de faire une couche de surexplication et de vraiment avoir quelqu'un qui arrive, qui se repose et qui te raconte les 2 heures de film au cas où t'es pas bien compris. Alors que justement, moi, le côté mystérieux, le côté même, t'as pas besoin de comprendre, ce qu'il faut c'est que tu ressentes, ça m'avait beaucoup plu.
Par contre, j'ai reconnu que ce garçon avait des problèmes, faut qu'il aille voir un psy. Là, on reste dans les mêmes thématiques, parce que donc l'histoire, c'est un jeune couple qui va voir de la famille en Suède, dans un pays où les jours d'été durent très 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 longtemps. Et ils vont dans un village paumé où on va fêter une célébration, un festival traditionnel, je ne sais quoi, qui se fête tous les 90 ans. Et il va se passer des trucs un peu glauques et bizarres comme il les aime bien. Bon, c'est pas tout ça, mais les pubs ont commencé. Et moi, je n'aime pas rater les pubs, car je suis un bon consommateur bien élevé. Bande annonce.
Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål!
What time is it?
9 p.m.
That can't be right. The sky is blue.
This is what 9 p.m. is like here.
How long have you two been together?
Just over 3.5 years.
4 years.
Really?
Yeah.
What do you think?
It's like another world.
Tomorrow's a big day.
Is it scary?
What is it?
It has special properties.
What am I going through?
We just need to acclimate.
I don't want to acclimate. I want to go.
Absolutely not.
What's happening?
Midsommar.
C'est quelqu'un qui te prend le bras et qui le tourne. Très, 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 très doucement. Tu laisses faire, jusqu'au moment où tu fais. C'est tordu, là. Et c'est à partir de là, cette espèce de rupture où tu acceptes ou tu acceptes pas. Moi j'ai accepté.
Mais moi j'ai accepté aussi. En fait, le moment où, comme dit Thierry, très belle métaphore d'ailleurs, il te tourne le bras, il te tourne le bras, il te tourne le bras, et avant que tu remarques, ton bras est cassé. C'est exactement comme ça que ça fonctionne dans ce film. Ça prend son temps d'installation, mais en même temps, on suit cette installation-là. Donc on est dans un cadre, on est Nord-Suède, il fait beau, il fait toujours jour. Il y a des petites demoiselles en robe de fleurs, tout le monde est content, tout le monde sourit, ça boit de l'alcool. Tout va bien au départ. Et petit à petit, il y a des petites histoires qui s'accumulent, des choses qui deviennent de plus en plus graves. Mais les gens gardent une espèce de contenance. Et le moment où il est trop tard, les personnages ne captent même plus qu'il est trop tard. Le réel réussit à installer le spectateur dans une espèce de compréhension de ce qui se passe. Et on rejoint nous aussi cette communauté. On accepte tous leurs rites, donc on est dans un univers de rites païens, de rites sacrificiels dans tout genre.
C'est ça, on est un peu, on arrive dans ce village, on dit il faudrait partir, mais on reste quand même.
C'est ça, ouais, complètement.
Au début, ça joue surtout sur la différenciation de culture, sur le côté, on assiste à des trucs un peu étranges, je pars pas forcément des trucs un peu plus extrêmes, mais à chaque fois on se dit bon, en même temps, on a décidé de venir, autant rester. Forcément, la dénotation, elle est massive pour eux. Donc au début, il y a ce côté, voilà, il faut accepter, mais c'est bizarre, quoi. Les mecs, ils se disaient, ouais, on part en trip, en mode, on va baiser, on va ci, on va ça. Ah, on va pas faire ça. Qu'est-ce qu'on va faire? Et oui, comme disait Ras, à partir de là où de toute façon, l'engrenage est lancé. C'est déjà trop tard. Et toi, tu viens à peine de constater que c'est foutu pour toi aussi, en fait. Tu es dedans, c'est fini. Donc tu vas devoir, tu peux plus sortir de là, tu dois attendre de voir ce qui va se passer, quoi.
Ouais, alors sortie du village, c'est notre sortie de la salle, quoi. Soit ouais. Tu prends, soit tu prends pas. Et une fois que t'es dedans, t'es complètement happé, hypnotisé. Personnellement, j'ai pas vu les quasiment 2h30 passer du tout. C'est charmant. On va sûrement y revenir, mais s'il faut parler aussi de l'esthétisme, c'est assez incroyable. Le chef op est un génie. Il y a des jeux de caméra, il y a des jeux de reflets, il y a des jeux d'angle, il y a de la symbolique dans énormément de plans. Tout est extrêmement bien cadré, bien mis en place, bien composé. C'est extrêmement agréable à voir. Il y a énormément d'exercices de style, mais qui fonctionnent tout le temps. On va sûrement y revenir aussi, mais les décors, c'est plein de fleurs, c'est tout un univers dans lequel on est plongé sans que ce soit artificiel. On utilise justement, au contraire, les rites païens, c'est quand même beaucoup le rappel à la nature. Donc on va rappeler toute cette nature-là et se servir d'elle pour ce décor sans tomber dans l'artifice.
Sans tomber par l'artifice, tout est tiré au cordeau. Les rites païens, il y en a la moitié qui sont inventés ou qui sont inspirés ou dérivés. Arrête. Et il y a beaucoup de trucs qu'on repère. Enfin, en fait, on passe son temps à repérer les effets de style, les effets de caméra. Quand ils arrivent dans le village, oh, on inverse la caméra pour te montrer que ça y est, on passe de l'autre côté. On te met le couple. Oui, il y a une mise en scène qui est au millimètre, effectivement, on la remarque. C'est absolument pas naturel.
Non, mais quand je dis que c'est naturel, je suis pas en train de te dire que le film est austère. Je suis juste en train de dire que les décors, la manière dont les décors sont construits, ça donne un aspect naturel. T'es pas en train de te manger des effets techniques toutes les deux secondes. T'es pas en train de. Non. Alors,
oui, il n'y a pas. Les effets techniques te sautent pas à la gueule comme ça. Il y en a quelques-uns un peu, mais ils sont discrets. Et voilà. C'est pas. Voilà. Après, c'est absolument pas naturel.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce qui se passe sur ce terrain et dans ce village pourrait être vrai. On nous dit que ça s'est vraiment passé. On peut le croire, c'est possible, parce qu'il n'y a rien qui va tomber dans du paranormal ou dans du too much, à part quand on évoque des moments de rêve ou des moments quand ils sont sous drogue. Et c'est les seuls moments où il se permet de donner des effets supplémentaires comme ça à l'image, en dehors des choix de mise en scène.
On voit le film passer, on le voit, on le sent passer, enfin on le sent dans le sens, on le pressent passer. On se dit, lui il est mort, lui il a bu ça, bon ben tant pis pour lui. Lui il a fait ça, aïe, ça va mal se passer. On pressent le film. Je dis pas qu'on le sent au détail près, mais
je trouve qu'encore une fois, on le pressent que à partir du moment où on a atteint le point de non-retour, pas avant. On ne se doute de rien avant. On se doute qu'il y a des choses qui vont mal se passer. On pense pas que ça va être ce genre de finalité-là. À partir du moment où l'engrenage est lancé, bah oui, on voit la première finalité venir. On sait pertinemment que ça va être la même chose pour les autres de différentes manières. Donc c'est même pas une question du on le pressent ou on s'en doute. De toute manière, le film n'a plus à se cacher, en fait.
Non, oui, alors après, il est dans ses thématiques, il y a beaucoup de choses très millimétrées, donc beaucoup de trucs qui sont très travaillés. On le sent. Les mecs sont dans un terrain vague ils se mettent pile à des endroits précis. On sent qu'il y a une grosse direction d'acteur, effectivement. Il y a aussi des thématiques qui reviennent. on va commencer à dévoiler un peu le film, maintenant on peut le faire, c'est bon. Là tu parlais des maisons par exemple qui sont pas très naturelles, il y a des thématiques que j'ai vues, que j'ai trouvées en résonance avec le film précédent. Par exemple les maisons qu'on voit, moi elles m'ont fait penser à des maisons de poupées parce qu'elles ont des proportions qui sont assez différentes, qui sont par rapport aux personnages, elles ont des grandes portes et des petites fenêtres. Elles ont des proportions un peu comme des maisons de poupées qui évoquent le film d'avant. Il y a une communauté qui fait des choses occultes et qui fait des choses inquiétantes. Oh, ça résonne aussi. Il y a un enfant déformé. On revient dessus aussi. Il y a une famille qui va pas très bien. On revient dessus aussi. Il y a des thématiques qui reviennent.
C'est normal. C'est normal aussi qu'il y ait des thématiques qui reviennent. Après, je te rejoins. Alors, sur le côté non naturel, une fois de plus, là, je suis plutôt d'accord avec Kéram, où moi, ça m'a semblé assez... Enfin, quand tu vois l'architecture des pays nordiques... C'est carrément raccord. C'est excessivement formaliste. C'est très surintellectualisé. Ça, c'est le cas. C'est comme ça. C'est dans le côté, on te met des symboliques, on te fait comprendre que, regarde à quel point moi je t'explique que comme ça. C'est comme ça. Sauf que moi, ça m'a absolument pas dérangé parce que c'est tellement maîtrisé que ça peut pas me déranger. C'est pas un défaut dans ce cadre-là parce que justement, moi, le ressenti a été toujours coulant en fait. Il y a jamais des moments où je me suis arrêté pour me dire regarde, il a mis le truc à droite, c'est comme ça. Non, l'œil capte l'émotion et elle se transmet. Et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié en fait. J'ai trouvé que vraiment tout. Moi, je suis passé de la terreur à des fois des moments de rire, à des moments où j'étais pas bien, à des moments. Je veux dire, il y a jamais de seul moment où je me suis demandé est-ce que je suis mal à l'aise. Non, j'étais mal à l'aise.
Alors que moi, j'ai juste ressenti le rire en fait. Les moments de gêne, je les ai eus, les moments un peu ridicules. Justement, il est tellement formaliste que moi, je suis pas rentré dedans. J'ai fait, ah ben là, c'est ridicule, là, ok. Ah, là, il y a le gros marteau. Ah ben là, il y a une scène gore. Voilà, c'est même pas du hors-champ, bim. Moi, ça m'a fait rire, ce film. C'est un film qui m'a sérieusement fait, qui m'a vraiment fait rire. Non, mais alors, j'exagère à peine, mais c'est ça, quoi. C'est pas vraiment un film d'horreur. C'est un film qui est censé être inquiétant, mais il m'a fait rire, en réalité.
Alors, en fait, je pense que tu vois, c'est exactement le même débat au final que ce qu'on avait eu sur Hérédité. Il y a toujours. Dans un film comme ça, dans un film qui est censé t'apporter soit forcément la peur virale, comme par exemple Crawl la semaine dernière, où on avait Yassa qui était en PLS tout du long, ou soit un truc comme ça qui te... C'est un film vraiment d'ambiance, avec une mise en scène qui va te mettre en abîme et qui essaye surtout de te mettre mal à l'aise, plus que de t'effrayer avec des gros jumpscares, même s'il y en a, il y a un petit peu de tout, mais la majorité, c'est vraiment du mal-être, du malaise, du rencontre en terre inconnue. C'est toujours la même chose qui doit se passer dans la tête, c'est est-ce qu'on choisit d'accepter ou pas. C'est comme quand tu vois n'importe quel film d'horreur, pour le coup, que ce soit un film comme ça ou un autre, s'il y a un décor, un masque mal fait, un extraterrestre qui te convient pas, un monstre qui te plaît pas, ou un moment où, quand les gens se sentent mal à l'aise, toi ça passe pas, à partir de là, c'est normal que l'ascension dans le ridicule dans ta tête se fasse en fait. Donc je comprends tout à fait, je comprends ton ressenti.
Mais j'ai trouvé ça très réaliste, mais la communauté, c'est, si tu veux, c'est des amis chez les Suédois. Tu vois les Amish, tu vois comme c'est coincé. Tu vois les Suédois, tu fais un mix des deux.
C'est pas vrai. C'est une secte païenne.
Secte païenne, complètement. Et c'est justement, j'en parlais aux garçons juste avant qu'on parte et qu'on enregistre. Ça ressemble à. Il y a un côté de Wicker Man. Il y a un côté, on reprend ses sacrifices. Et là, les rites païens, c'est quelque chose de très, très, très ancien, extrêmement mystérieux, qui ressortent et qui ressortent en fait, qui sont pas tant que ça évoqués dans des films. Pas tant que ça évoqué dans le cinéma d'horreur. Là, pour le coup, il en fait quelque chose, en plus de pousser à l'extrême des détails de comment est-ce que ça fonctionne. Ils ont leur propre livre sacré, on t'explique les rituels, il a refabriqué cet univers-là en se basant sur des rites qui existent déjà. C'est gaulé de faire ça, mais c'est sûr que si t'es pas prêt à rentrer dedans, si c'est pas un univers qui te plaît, ça va pas marcher. Moi, j'aime beaucoup qu'on m'emmène dans ces univers-là. J'aime bien qu'on crée un monde où je me dis « Waouh, sur un malentendu, ça pourrait carrément être la réalité ». Mais où, pour une fois, c'est pas tiré de faits réels, mais réinventé dans un univers où tu te dis « Ah, potentiellement, il existe un espace dans ce monde où c'est possible que ça se passe. Ouais. »
On est aussi à deux doigts de la branlette aussi, parce que les fameuses runes avec les écrits, les machins, qu'il a inventé lui-même, ouais, il a inventé un langage et des runes, tu comprends, alors qu'il n'en a pas besoin. Il en a pas besoin. Et pour que le mec qui soit fan aille s'amuser à décortiquer, alors là, à ce moment, la rune, elle veut dire ça, et que ça donne à manger à celui qui aime ça.
Et c'est là que le côté Hera la snob ressort, c'est que moi, j'adore voir ça, j'adore voir de la symbolique dans tous les plans, j'adore pouvoir revoir un film 15 fois et analyser chaque séquence en trouvant quelque chose à dire, quitte à ce que ça fasse une analyse à un truc que je ne connais pas, que j'avais pas compris, que ça m'en apprenne plus, mais j'aime quand un réalisateur se pète la tête sur son film. que quelqu'un réfléchisse comme ça et travaille dessus et rajoute toutes ces symboliques là, ça me plaît beaucoup plus qu'un mec qui sait bien poser sa caméra et écrire un bon scénar et qui réussit à te surprendre et à te faire marrer et à te faire pleurer, etc., qui arrive à te rajouter de l'émotionnel. Parce que je vois ce genre de film tout le temps. J'en vois plein, des films qui me mettent dans une certaine émotion, j'en vois plein des films qui sont bien exécutés, des films qui rajoutent de la symbolique à un monde et qui sont travaillés comme ça avec ce qu'il y a derrière. C'est différent, c'est rare. J'aime bien cette rareté, j'aime bien cet aspect artistique. C'est, oui, ça peut s'apparenter à une forme de snobisme ou d'intellectualisme, mais c'est, ouais, c'est un travail de style.
Là, on suit une cérémonie de printemps qui va comporter en fait énormément de rites cérémoniaux. Ça commence par la perte des anciens qui doivent se suicider à un certain âge, c'est quand même déjà assez violent, et ça finit par la naissance. Donc tout suit une logique, et c'est vrai que moi là, il n'y a vraiment pas un seul moment où je me suis dit c'est illogique, ce truc-là n'a rien à faire là. Et je me suis dit, ouais, selon leur pensée, selon leur logique, tout est absolument cohérent et ce truc-là peut parfaitement exister. Et ça existe déjà sous différentes formes, puisqu'il a puisé un petit peu partout. Et je pense que si on allait vers chaque communauté où il a puisé ses références et qu'on regardait l'intégralité de leur rite, il y aurait d'autres éléments et ça irait dans les mêmes genres d'extrêmes. Tout dépend de ce qu'on croit. Après, c'est même le côté quand il y a des gens qui viennent leur expliquer pour le suicide, elle leur donne une explication extrêmement logique sur le fait qu'ils préfèrent, eux, se donner la mort à 72 ans plutôt que vivre la décrépitude.
En fait, c'est de l'euthanasie, quoi. Enfin, c'est de l'euthanasie quand t'es pas malade.
C'est de l'euthanasie volontaire. Mais donc, du coup, en soi, une fois qu'ils t'expliquent ça, tu te dis que c'est des gens qui fonctionnent aussi selon une certaine logique.
Ils sont en accord avec la nature, et donc quand tu meurs, tu es rendu aux arbres, tu es rendu à la nature et tu reviens à la nature. C'est juste le fait que quand tu as des traditions qui sont ancrées, des croyances qui sont ancrées, et que ta croyance c'est que tu crois fermement et totalement que quand tu meurs, ton âme se réincarne dans un élément de la nature, et bah c'est ok. C'est des choses qu'on voit dans pas mal de traditions. Il y en a en Afrique, il y en a dans... Bon, je vais pas citer tous les pays où il y en a, parce qu'il y en a beaucoup des anciennes civilisations qui voient les choses comme ça, mais où la mort est célébrée. Et le fait, il y a quelque chose de très beau qui est que dès qu'un être est en souffrance dans ce film, tout le monde se met à hurler parce qu'en fait, ils font qu'un. Ils font qu'un, donc ils hurlent tous mutuellement l'un sur les autres. S'il y en a une qui pleure, l'autre pleure, ils accompagnent. Et quand quelqu'un meurt, ils dansent. Parce que c'est une manière pour leur corps de lâcher ce qui vient de se passer en tant que tragédie, de pas considérer ça comme quelque chose de tragique, mais comme quelque chose de beau. Donc, j'ai pas une tendance à voir moi comme une forme de misanthropie, c'est le décalage qu'on a entre notre culture et leur culture qui donne cette impression là, mais pour eux en fait ils nagent en plein bonheur, ils sont super bien, ils vont très très bien.
Nous aussi nous nageons en plein bonheur, donc j'ai l'air d'avoir détesté ce film. Non, je l'ai pas détesté, j'ai pas soufflé dans l'ensemble, ouais non ça se tient plutôt bien, c'est juste que bon je suis pas rentré à fond dedans et je pense que l'effet d'horreur, le problème c'est que on est un peu on est comme cette communauté, on est pisse, on fait oui bon c'est horrible, oui bon mais ça va. Non mais si tu veux il n'y a pas de surprise quoi.
Non mais c'est pas grave.
Non c'est pas... ça dépend.
Si c'est ce que tu viens chercher, oui. Ce qui t'intéresse, c'est le déroulé des choses, c'est différent. C'est un peu comme les personnes qui supportent pas d'être spoilées parce que ce qu'ils cherchent dans un film, c'est limite c'est l'effet de dopamine, c'est l'effet de surprise, c'est le « Ah ! Tiens, je viens de me prendre un hit !» Et il y en a d'autres qui sont plus intéressés par le déroulé de la situation, comment est-ce que c'est mis en scène, comment est-ce que c'est amené, et qui est plus qui est analysé avec plus de recul, on va dire. Ça dépend effectivement de ce que tu viens chercher.
Je pars du principe que à quelques très très rares exceptions près, Parasite en était une d'ailleurs, parce que un twist fait que toutes les histoires ont déjà été racontées, surtout après un siècle et demi de cinéma, des siècles et des siècles de littérature. Donc ce qui compte moi c'est pas ce qu'on me raconte, c'est pour ça que quand tu me dévoiles pareil des éléments de scénario, à part quand c'est vraiment important et que ça pourrait être peu gâché vraiment une lecture parce que tout est basé dessus, je m'en fous au final. Ce qui m'importe c'est comment tu vas me le raconter, pas forcément ce que tu vas me raconter, donc c'est normal de rester extérieur comme ça peut être normal d'être dedans. C'est voilà, chacun y voit ce qu'il y voit. C'est difficile de savoir s'il faut le conseiller ou pas parce que ça reste quand même assez sensible. Donc c'est compliqué, il y a des gens qui peuvent s'ennuyer, il y a des gens qui peuvent totalement être pris dedans, il y a des gens qui peuvent trouver ça affreux parce que ça peut traumatiser sur certains aspects, selon la sensibilité que tu peux avoir. D'autres justement peuvent rester extérieurs et se marrer et du coup se dire putain c'est quoi ce truc. Il y a de tout.
Faites-vous votre propre opinion. Là pour le coup il faut vraiment, je vous conseille même si vous avez écouté cette émission, allez le voir. Là pour le coup c'est une curiosité. Bien Hera, ce fut un plaisir. Tu t'échappes de notre communauté pour ce soir.
Ouais, j'ai réussi à trouver la porte de sortie.
Merci Hera.
Merci Thomas.
Allez, 3, 2, 1, transformation.
Coucou.
Oh mon dieu. Mais c'est Yassa. Alors, j'ai ouï dire que Yasa serait une fausse Hera ou que Hera serait une fausse Yasa. C'est scandaleux. Mais pour vous montrer, pour vous expliquer ce qu'est un vrai faux et un vrai faussaire, eh bien nous allons voir tout de suite les faussaires de Manhattan.
Just these. I don't want the others.
Come on, man. I schlepped these all the way here.
There's people waiting.
You know, you don't have to be so disrespectful. You've actually carried my books here.
And you are?
Lee Israel.
Oh, we have copies of your latest work right over there.
Nobody is going to pay for the writer Lee Israel right now.
I'm months behind in my rent, and my cat is sick.
It's 4 in the afternoon, and you're drunk.
I'm hardly drunk.
Craigie, top her up.
My suggestion to you is you go out there and you find another way to make a living.
Recently found this delightful sign letter.
Fanny Bryce, one of my favorites. I could give you 75.
Oh.
I could give more for better content. It's a bit bland is all.
Yeah, I can definitely get a lot more for this one.
I mean, the PS makes it priceless.
Les faussaires de Manhattan, Can You Ever Forgive Me, en VO, de Marielle Heller avec Melissa McCarthy, oui je le dis en français parce que je m'adresse à des Français,
Melissa McCarthy,
et Richard E. Grant. C'est l'histoire de Lee Israel, biographe new-yorkaise en manque de succès, qui pour subvenir à ses besoins va revendre de fausses lettres qu'elle aura elle-même falsifiées en imitant le style d'auteur célèbre. Grâce à son talent d'écrivain, elle va réussir à mystifier les revendeurs jusqu'à ce que ces lettres un peu suspicieuses attirent l'attention du FBI. Va-t-elle s'en sortir? C'est une histoire vraie? Non, elle s'est faite coffrer, elle a écrit un bouquin derrière qui est adapté en film, donc vous vous doutez bien.
Ouais, c'est ce qu'il disait, c'est qu'elle avait fini sa vie sur les rentes de ce bouquin, parce qu'après, ça s'est très très bien vendu. Donc la nana, tu vois, elle a fraudé, elle a réussi à fructifier sa propre fraude. Ça me fait penser à Jordan Belfort, tu vois, qui est quand même l'un des plus gros enfoirés de tous les temps. Et le gars, une fois qu'on l'a chopé, qu'il a avoué tous ces trucs, le mec, maintenant, il fait des conférences pour expliquer ce qu'il a fait, quoi. Donc, le mec, il continue à capitaliser sur sa propre fraude, c'est génial.
Le crime paye.
Le crime paye, quoi, c'est ça.
Le crime paye, très exactement. On va le dire tout de suite, c'est un film qui est beaucoup plus académique, qui n'a absolument pas les mêmes ambitions. Je m'aperçois qu'avec le contexte de Midsommar, c'est peut-être pas l'idéal comme comparaison.
Ouais, bon, c'est juste parce qu'on a enchaîné les deux, donc forcément, on y pense, c'est frais dans nos têtes. Mais oui, en effet, là, on est sur un exercice qui est tellement différent que c'est compliqué de comparer, quoi. Enfin, voilà, on est sur un biopic, comme tu viens de le dire, extrêmement classique, beaucoup trop. Je veux dire, moi, c'est ce qui m'a perdu. Attends, on est bien dans l'épisode best-of Making of the Clack. Salut, c'est Thierry. Donc, on va parler du Making of the Clack. Donc, tu vois, moi, en fait, en tant qu'intervenant, je suis aussi la personne qui va dérocher. Donc là, Thomas va faire le montage. Moi, je vais couper, tu vois, tous ces petits passages. Donc, quand t'écoutes un épisode, tu vois, tu te dis, putain, c'est génial parce qu'ils sont toujours concis, ils arrivent toujours à aller au but. En réalité, des fois, on se répète. Tu vois, et donc, du coup, moi, mon boulot, ça va être de dérocher, de retirer les parties en trop, les parties où on se répète. Un peu ce qu'aurait dû faire le monteur de ce film. Ce film est 30 fois trop long. Il m'a paru interminable. Ça se répétait tout le temps, les situations n'avançaient jamais.
Mais en même temps, pour être un faussaire, il faut s'entraîner aussi. Hein.
Oui, mais on ne te montre même plus des passages où elle s'entraîne. Enfin, c'est que ça va aussi entre les passages où elle va au bar, où elle va refaire le tu fais ci, tu fais ça. Et après, il y a les passages hyper croustillants où les anti-John F. Donovan, où elle lit les lettres qu'elle écrit. Oui. Et c'est croustillant ce qu'elle écrit, c'est génial. Je me dis, ouais, en effet, si les auteurs en question, parce que c'est des acteurs connus, généralement, c'est des correspondances d'acteurs qu'elle fait, d'écrivains, ou de plein de personnes connues. Mais ouais, je sais pas s'ils écrivaient comme ça, mais en tout cas, si elle les mystifie autant, putain, ça devait être croustillant, ne serait-ce que de lire des correspondances de ces gens, quoi. C'est du chaud d'Erlot de la Clos.
Oui, c'est ça. Au moins, on bénéficie des lettres. Hein. On a deux, trois exemples, il n'y en a pas tant que ça. Au début, elle prend une vieille lettre qui existe vraiment et elle rajoute un post-scriptum. Il y a une petite ironie, il y a du mordant un peu, il y a quelque chose de... Il aurait fallu peut-être nous mettre un peu plus de ces figures de style qu'elle va trouver plutôt que nous montrer les 40 vendeurs à qui elle va refourguer une lettre qui n'était pas nécessaire. Pareil, il y a 2-3 trucs dans l'intimité du personnage aussi qui n'étaient pas forcément nécessaires. c'est un personnage qui est très renfermé sur elle-même, qui a du mal à se faire des amis et à garder des amis. Et il y a une histoire d'amitié avec une libraire à qui elle vend des lettres. En fait, j'ai l'impression qu'elle est pas... Justement, là où il y a des longueurs, cette histoire-là, moi, m'intéressait. Je me dis, mince, où est-ce que ça va aller, ce truc? Et j'ai l'impression que cette histoire n'est pas finie.
N'est pas résolue, ouais, tout à fait. Mais je pense qu'il y a un petit souci de montage, parce que ça prend son temps, évidemment. Ça aurait gagné à avoir un montage un petit peu à la « Attrape-moi si tu peux ». Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce film, où c'était quand même assez dynamique, où on voyait l'enchaînement de l'arnaque, etc. Alors que là, l'arnaque se déroule devant nous, mais c'est-à-dire qu'avec les histoires en parallèle à côté de rencontres, avec la libraire, avec le personnage de Richard E. Grant, mais je ne sais pas ce qu'il fait exactement, s'il était... je ne sais pas ce qu'il était.
C'est le complice.
Non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il était dans le monde littéraire, quoi. Enfin,
c'est un auteur sans grand succès, comme l'autre, quoi. S'il était alcoolo. Ils ont en commun, en fait, ouais, elle se fait un pote auteur qui est un alcoolo comme elle. Hein,
qui est ordurier comme elle, quoi, qui est le côté un peu rebelle de cette société. Enfin, c'est elle, comme lui, refuse totalement le monde élitiste de la littérature. Puisque de toute façon, ça c'est dit en deux plans. Enfin, en deux petites scénettes. Il y a la première scénette où elle va chez son agent. Et on est quand même, c'est une nana qui fait une réception chez elle où elle engage quand même quelqu'un pour faire un vestiaire, quoi.
Et un truc que j'avais jamais vu, c'est que elle met des rouleaux de papier cul neufs
chaque fois que quelqu'un passe aux toilettes. Et donc du coup, elle remplit les placards de rouleaux de PQ à peine usagés. Du coup, au moins ça lui fait une réserve pour longtemps, tu vois. Mais non, déjà ça. Et après, quand eux ils en reparlent entre eux dans le bar, ils s'étaient connus là, et elle se rappelle que le gars lui avait pissé dans le vestiaire en question. Ça fait une blague c'est cocasse, c'est marrant. Et voilà, et c'est ça, ces deux auteurs qui rejettent totalement ce monde élitiste et qui sont là, attends, c'est bon, on est là pour écrire, pour se marrer, pour faire ce qu'on aime faire, on n'est pas là pour se montrer en train de faire ce qu'on aime faire. Donc c'est des gens qui, lui peut-être un peu plus qu'elle, elle ne cherche pas du tout la gloire en fait, mais elle aime se cacher derrière les histoires qu'elle écrit, puisque elle, ça la passionne. Donc au final, ouais, il y a ce côté solitaire là aussi, et qui ne l'aide pas dans sa vie, puisque ça fait que du coup elle se renferme de plus en plus. On voit l'état de son appartement, elle est, c'est une vieille femme à char, hein. Et c'est vrai que ça sort jamais, jamais de ce cadre de biopic, là où, ouais, ce que tu disais, il y a ça, tu parlais d'Arrête-moi si tu peux, c'est un très bon exemple. Ça aurait pu être un film d'arnaque, sans forcément être un film d'arnaque qui va à fond les ballons avec les codes du film d'arnaque, mais peut-être un entre-deux, un biopic d'arnaque, ça aurait été marrant. Après, le problème du biopic reste toujours le même. Ça a eu des prix de taré, ce truc-là. Elle a été nommée partout, Melissa McCarthy, parce qu'il y a de la transformation physique, parce que c'est un personnage connu qui vient de mourir. Tout le monde connaît. Enfin, voilà, aux États-Unis, tout le monde connaît. Ça se touche à mort sur l'Amérique. Donc, ça passe. Et c'est les gros problèmes du biopic, c'est que les biopics sont des films extrêmement quelconques qu'on va oublier. Là, bon, la mise en scène, elle est très, très quelconque. Je veux dire, Maria Leller, avec toute l'affection que je lui porte, elle fait un travail de yes girl pour du biopic, quoi. Il n'y a pas plus d'ambition que ça, et c'est dommage. Et ce qui fait que du coup le film devient très vite redondant. Heureusement que l'histoire est chouette, parce que du coup on s'amuse, on est content de voir ces personnages, on est content de les voir évoluer, de voir ce qui leur est arrivé. Mais à part sûrement nous donner de l'intérêt pour ces personnages et d'aller lire une biographie qui nous plaira sûrement plus que ça, on aura oublié le film dans deux semaines.
Enfin, je sais pas pour vous, moi j'ai passé un bon moment, parce qu'il y a beaucoup de moments où je rigolais. Ils ont un humour tranchant. Les deux personnages là, ils ont un humour vraiment tranchant, et je pense que ça participe en fait de la, comment dire ça, de la construction du biopic en fait. C'est-à-dire qu'on voit qu'ils ont une vie qui n'est pas facile, hein. Ils sont un poil aigri, j'ai envie de dire aussi, et du coup c'est un peu leur moyen de crier à la face du monde que voilà, qu'ils rejettent les codes, etc., et qu'ils s'en sortiront quoi qu'il arrive. Et du coup en fait ça rejoint un petit peu le discours qu'elle avait eu à la fin devant la juge, en disant que elle regrette pas d'avoir fait ça. C'est-à-dire qu'elle se sentait mal parce qu'elle avait peur d'être prise, mais elle ne regrettait absolument pas d'avoir fait ça. Ce que je peux comprendre.
Quand t'as une vie aussi, je vais pas dire banale, mais aussi morne que la sienne, ça lui a donné un piment de taré aussi. Et c'est surtout ça, hein, qu'elle évoque, c'est le côté, peu importe, quoi, tout à coup, elle a eu une raison de vie, une raison d'avoir du frisson, et tout le monde a besoin de ça. Ça fait du bien.
Et puis, voilà, on parle des personnages, ils sont portés par deux excellents acteurs. Le film vous le détourne aussi pour ces acteurs qui sont très bons. Et ça fait plaisir de voir aussi McCarthy dans des... dans quelque chose de peut-être un peu plus posé, un peu plus fin aussi. Clac appose son certificat d'authenticité au faussaire de Manhattan. Et nous lui pardonnons sa mise en scène un peu plan-plan. Voilà, parce que rien que pour les acteurs, ça vaut le détour. Voilà. Écoutez, l'heure est grave. Mon train m'attend, je dois partir en vacances. Car il se trouve que j'ai de la famille dans le sud. Oui, alors, vous l'avez deviné, hein, vous êtes auditeur attentif, j'ai un léger accent du sud. Donc ouais, je vais voir la famille. Du coup, mais je vous confie les clés de Clac.
Voici les clés, pour le cas où tu changerais d'avis. Ah.
Allez, pendant que certains se dorent la pilule au soleil, on continue l'émission à deux. Je suis avec Yassa et nous allons voir Factory, un film russe de Yuri Bykov. On vous passe un petit extrait et on en parle.
Работаем до конца месяца и все. Сейчас денег нет. Появится, выплачу. Вот так.
Нагреть его надо. В машине охранник и водитель, он сзади. Дорога к вечеру пустая. Блокируем двумя КАМАЗами. Берем его. Везем сюда. Он звонит своим шавкам. Нам деньги привозят. И Ташкент.
Factory de Yuri Bykov. Un film qui brasse pas mal de thèmes. Yassa, est-ce que tu veux commencer, donner tes premières impressions?
J'ai bien aimé, franchement. J'ai été dedans dès le premier instant. Il y a beaucoup de thématiques qui sont mélangées, hein, qui reviennent, les thématiques des classes sociales, etc. Puisque le film parle justement de... Ça nous montre des ouvriers d'usine qui vont bientôt se faire virer. Et du coup, une poignée d'entre eux décide de prendre en otage le patron de l'usine et demander une rançon, justement, pour pouvoir s'en sortir par la suite. Et du coup, on se retrouve avec... une critique de la société, j'ai pas envie de dire russe, mais de la société mondiale en général, puisqu'on se retrouve en fait avec une fermeture d'usine, des choses qu'on connaît ici en France, qui sont connues un peu partout dans le monde, quoi. C'est une critique qui se veut dans un contexte russe que moi, par exemple, je ne connais pas. Enfin, j'ai une vague idée de comment ça se passe en Russie, mais je pense que c'est plus dû à des préjugés ou des idées préconçues que j'ai de la Russie. Mais en même temps, ça nous plonge bien dans l'ambiance noire et déprimante que peut être la Russie et d'une usine, je ne sais pas ce qu'ils fabriquent, mais des bouts de métaux, etc., tu vois. Il y a quelque chose qui m'a frappé là-dedans, c'est que il y a un choix de nomination de personnages qui est assez particulier, c'est-à-dire que les personnages ont des surnoms, d'accord. On va se retrouver avec le gris, qui est le personnage principal, et il porte très bien son surnom, parce que la première phrase qu'il lance, on sent tout de suite qu'il est totalement désabusé. On apprend qu'il a été soldat, qu'il a été blessé à la guerre, et on se rend compte qu'il est un peu plus investi que ça, mais tout en ayant quand même cette froideur de soldat qui lui est restée, et du coup ça va beaucoup influencer le kidnapping, justement l'interaction entre lui qui va se positionner en chef des kidnappeurs et les autres membres qui font partie de la bande.
Oui, c'est vrai qu'on a la dénotation, enfin on a une dénotation entre chaque personnage, puisque justement on a lui qui est le seul personnage entraîné, on va dire. Il y en a un qui clairement dit qu'il a appris à tirer à la guerre, mais est-ce qu'il a juste fait son service, est-ce qu'il a vraiment été à la guerre, il est très jeune. Donc du coup, tu sens que c'est pas quelqu'un qui a sûrement les mêmes années de soldat que le gris. Moi justement, le nom des personnages, alors ça aurait pu marcher, mais j'ai trouvé que ça fonctionnait pas. Le problème, c'est que du coup, moi je me suis pas vraiment attaché à eux. Il y a jamais eu de moment où je me disais, même si je comprenais leur combat et que j'avais envie d'être avec eux parce que c'était intéressant et que en soi, je comprends pourquoi ils voulaient se battre, j'ai eu énormément de mal à m'attacher à eux parce que tout était très très froid. Tous les personnages sont très froids, sont très monolithiques. Et donc même d'ailleurs, voilà, ce patron, on le voit forcément, on ferait un personnage comme ça en France, oui, on dirait que c'est forcément un véritable salaud, il est froid, il est monolithique. Sauf que c'est un film russe. Donc il n'y a aucune émotion qui ne transparaît jamais, les mecs sont froids, ça joue à qui est le plus gros bonhomme. Et donc du coup, à partir de là, je ne voyais pas la fonction de tout le monde. Alors ça essaie de nous rapprocher avec des surnoms, mais du coup, la plupart du temps, moi, à chaque fois qu'on redonnait un surnom, quand ils parlaient entre eux, je ne voyais pas lequel c'était. Parce qu'entre un qui s'appelle Le Gros, entre les mercenaires aussi qui viennent, parce que du coup, il y a une bande de mercenaires qui vient pour libérer, pour essayer de libérer le patron et de négocier au début avec les kidnappeurs. Et eux aussi ont des surnoms. Alors bon, d'accord, quand tu choisis le plus petit de la bande parce qu'il est, il est atteint de nanisme et qu'on l'appelle Joyeux, là, c'est facile à repérer. Mais il y en a un, c'est le 7. Qu'est-ce que tu veux, pourquoi lui le 7? Est-ce que tu arrives à le repérer dans l'espace? Non. Et tous les éléments dont on a besoin pour s'attacher au personnage, on nous en donne pas assez. Donc on voit à peine leur vie par des montages. Il y en a un, il s'occupe de sa mère, il y en a un, il est avec sa femme, mais on les voit, mais à peine quoi. C'est en tout cas pas suffisamment pour qu'on puisse se dire on a envie d'être avec eux.
J'ai l'impression qu'en fait, autant c'est austère et froid, autant le film a essayé de transmettre un message, mais un petit peu maladroitement, parce que vers la fin, on a un discours un petit peu humaniste. Le personnage principal et le gars qu'ils ont kidnappé, et aussi le chef des mercenaires qui commence à parler. Le chef de mercenaires, par exemple, fait un discours au chef des kidnappeurs, au gris, et il lui fait un discours. J'ai pas compris d'où c'est sorti. À un moment donné, il fait « Oui, il faut que tu vives ».
Il y a un manque de définition, en fait, je trouve, dans les personnages, parce qu'ils se retournent comme des crêpes. C'est-à-dire que le chef des mercenaires comprend le combat du gris. Il est d'accord parce que socialement, bah, lui aussi, hein, il est en bas de l'échelle et forcément, lui, il compte sur ce genre de mec comme le patron qu'on a kidnappé pour vivre. Et il est d'accord pour dire que oui, il y en a certains qui ont une cuir en argent dans la bouche et qui n'ont jamais trimé de leur vie. Et il y a les gars comme eux qui en chient pour gagner des clopes. Du coup, oui, sauf que le problème, c'est vrai que le mec est très très froid dans le sens, bah, il fait son métier et tout à coup, il se retourne comme une crêpe et « Ah oui, mais je suis avec toi, je suis ton pote ». Et c'est peut-être un peu trop rapide, et c'est ce manque de définition qui est étrange. Moi, il y a même des côtés, puisque du coup, il y a des flics qui débarquent, quoi, qui arrivent très vite, hein, d'ailleurs, puisque bah, du coup, il y a eu une supercherie qui fait que quelqu'un a appelé les flics, on ne sait pas exactement qui, est-ce que c'est dans les mercenaires, est-ce que c'est dans les kidnappeurs. Bon, au final, enfin, on se pose pas tant la question. Quand ils nous le dévoilent, on fait « Ah d'accord, c'était un twist, bon ». Mais c'est pas assez appuyé pour qu'on se pose la question. Mais du coup, on voit le capitaine donc, du coup, de la police, qui reçoit un appel de sa hiérarchie, et sa hiérarchie, en gros, on n'entend pas le dialogue, mais sa hiérarchie lui dit « Vous laissez tomber, c'est les mercenaires qui prennent la direction. » Alors, je sais pas comment ça fonctionne, mais c'est vrai que quand tu vois une police qui a l'air d'être une police, ça faisait un peu SWAT, en fait, même dans leur technique d'intervention, qui ont l'air d'être...
C'est une brigade d'assaut.
Ouais, voilà, c'est un GIGN, quoi. Ils ont un ordre comme quoi une milice privée, qui est juste une société de sécurité qui s'occupe de ce gars-là, doit primer sur eux. Il faudrait peut-être nous expliquer pourquoi, parce que peut-être que ça fonctionne comme ça là-bas, mais du coup, moi j'étais là, je tapais pourquoi en fait. Donc, dans ce genre de cas, il faut peut-être nous montrer le dialogue, il faut peut-être nous expliquer aussi les tournants et aboutissants, comment ça fonctionne, pas juste nous dire par un tour de passe-passe, ah au fait, tiens, c'est lui qui prend la main, ok, d'accord. En fait, ça faisait, t'avais presque l'impression à un moment qu'on allait parler d'une affaire de corruption, parce qu'on se disait, alors il vient de parler à un haut placé au gouvernement qui lui a dit, tu te tais parce qu'on a des intérêts. Et non, même pas en fait, c'est juste, laisse faire. Bon. Et ouais, donc il y a ce côté-là, il y a le côté, on essaie des fois de nous attacher avec des... Alors, plutôt au début du film, après c'est vite oublié, avec des blagues. Et alors des blagues d'un niveau, c'est juste des blagues misogynes sur la femme d'un gars qui est parti avec le voisin. Et vraiment, c'est en mode, tout le monde fait des tontes avec ta femme, tout le monde la tringle. Et moi j'avais quand même l'impression, même dans le procédé, toi à un moment tu m'as dit que ça te faisait penser à Die Hard. Et je me disais, bah, l'avantage de Die Hard c'est qu'on aime bien John McClane, alors que là, ces personnages-là, moi je m'en foutais quand le mec est tout seul en train de s'éclater les mercenaires un par un, je me dis, ouais, je m'en fous quoi. J'ai eu l'impression de voir un film d'un autre temps. Je me disais, ouais, moi c'est blague énormément misogyne avec des mecs qui veulent juste être le plus badass, avec que des gueules cassées, qui sont juste des gros bourrins et compagnie. C'était le cinéma d'il y a 20 ans quand on avait les gros films américains à la Predator et compagnie où c'était que des gros militaires dans la jungle. Les patrons c'est des gros méchants, les ouvriers c'est des grands gentils, ça dit rien de plus que ça.
Mais en fait, ils essayent même de nuancer le propos, parce que le patron qui s'est fait kidnapper à un moment donné a un discours de « tu vas m'en vouloir d'avoir travaillé comme un chien pour en être arrivé là ». En fait, le patron, en sous-titre, il dit que « j'ai juste plus de neurones que toi et du coup, j'y suis arrivé ». C'est ça. Il y a des moments de stagnation qui reviennent régulièrement. Et par exemple, les entrées et les sorties du chef de...
C'est ce que j'allais dire.
Ben oui.
C'est vrai que cette porte, il la passe constamment. Tiens, je t'apporte ça, tiens, je reviens, tiens, t'as pris ta décision, tiens. Ouais, ça pouvait être tenu sur beaucoup moins de temps, quoi.
Il y a des fausses montées d'adrénaline. À un moment donné, il envoie un sac et on pense que c'est une bombe. Moi, j'étais un petit peu dedans. Et puis, le moment de la bombe, en fait... Il s'étire. À la fin, je me dis, mais bon, voilà, vas-y, que l'un de vous explose et puis qu'on enchaîne, quoi.
C'est ça. Factory, du coup, un film où potentiellement vous pouvez passer un bon moment si vous avez envie de voir un film pseudo-action pas trop mal, mais que on oubliera vite et qu'on retient pas spécialement, en tout cas cette semaine. Voilà, on passe à la suite ?
À la suite !
Moi, je suis pas un flic, je suis pas un maton. Là où on va, c'est un centre éducatif fermé. Vous êtes 12 à attendre votre jugement. Et ça dure 6 mois.
Vas-y, garde, tu comptes ta chaise, gars. Quoi, tu regardes, toi?
Il te regarde pas.
Baisse tes yeux, fils de pute.
Qu'est-ce qui se passe? Oh.
C'est pas du combat, hein, c'est de la touche.
Arrête de me faire chier, t'as compris?
Allez, les gars, on dirait un nouvel arrivant, là.
Et toi, sors-moi une clope. Ici, ça va être un gain de temps si tu me prends pas pour un con.
C'est Bob, Silas, Biggie, Hansal.
C'est qui, lui?
Teddy, votre nouveau camarade.
Pourquoi faut que je vois un Renault, il s'appelle Teddy, les gars?
C'est quoi, la gueule, toi?
Tu sais que t'es à ma place, là?
C'est quoi, les places sont attribuées ici?
Vas-y, bouge de là.
Alors, t'es là pourquoi ?
Mon frère de Julien Abraham. Alors, Julien Abraham, c'est quelqu'un qu'on connaît puisqu'on a chroniqué il n'y a pas très longtemps Made in China, qu'il avait réalisé avec le scénario de Frédéric Shaw. Donc là, c'est un film qu'il a coécrit. Donc il est plus impliqué dans la scénarisation. Donc c'est aussi pour ça qu'on s'est dit qu'est-ce que ça peut donner. On n'est pas dans la comédie potache. Avec un but justement d'ouverture à une autre culture. On est là dans quelque chose de très viscéral, de très violent, un film qui est très en colère finalement.
Absolument, et ça se ressent de partout en fait. C'est un film, comme tu l'as dit, en colère par ses personnages, parce qu'on est lancé, on est jeté au milieu de ces jeunes qui sont perdus. Et ce que je trouve bien, c'est que on nous explique un petit peu pourquoi, c'est-à-dire qu'il y a le background des jeunes qu'on découvre au fur et à mesure, autant le personnage principal que ceux qui l'entourent. Mais c'est quand même contrebalancé un petit peu par les éducateurs et la psychologue aussi qui est là, c'est-à-dire qu'on va avoir des montées de colère et des actes violents qui vont être contrebalancés quand même par des gens. Je prends l'exemple, alors je me souviens plus de son prénom, mais c'est un des éducateurs qui est grand, baraqué.
Papou,
absolument. Franchement, il serait combattant de MMA, que ça m'étonnerait pas, quoi. Il est vraiment baraqué. Et en fait, il s'y prend, il est imposant, impressionnant, mais sans être violent.
Oui, non, c'est ça. Mais après, c'est quelqu'un aussi qui a cette colère en lui, et c'est bien parce que c'est quelqu'un qui vient potentiellement du même milieu que ces jeunes, et c'est ce qui fait qu'il arrive à communiquer avec eux et qu'il en impose un peu plus. Donc l'histoire, on va donc du coup la rappeler. Donc voilà, comme tu viens de le dire, ça se passe dans un centre de un CES, c'est ça, un centre d'éducation spécialisée. Donc c'est l'histoire de CES fermé, oui, c'est ça, un CESF du coup. C'est l'histoire donc de Teddy. Donc Teddy qui est un jeune. Alors je sais pas exactement où ça se passe. C'est une, ça fait limite village, petite ville de province.
Il me semble que c'est en Île-de-France. Hein,
je ne suis même pas certain que ce soit en Île-de-France. Enfin, en tout cas, voilà, ça fait pas, on n'a pas du tout les codes parisiens, on n'a pas la cité. Les gens vivent dans, enfin, même quand on voit le quotidien de Teddy, c'est quelqu'un qui vit dans une maison, qui est éduqué, qui ne vient pas du tout du milieu qu'on va voir en fait, avec tous les jeunes qui sont dans le centre. Donc lui, il dit qu'il a tué son père. Il est mineur, donc il est mis dans ce centre. Et du coup, ça va être donc le combat de tous les jours en fait, d'un garçon qui va découvrir un milieu qui n'est pas le sien, avec des jeunes qui sont enfermés pour des actes soit très violents, soit des actes mineurs. Voilà, ça va aller du petit dealer au mec ultra violent, au gars qui a été battu par ses parents. Il y a tout un panel et c'est des jeunes extrêmement en colère, racisés, pour la quasi-totalité à part un, auquel on va beaucoup s'intéresser, qui s'appelle Enzo. Et donc du coup, ça va être ça. Ça va être son incarcération et la façon dont il va se rappeler peu à peu par les techniques de sa psychologue qui est jouée par Aïssa Maïga, qui va l'aider avec de la boxe et qui va l'aider donc avec le terrain psychologique à remonter du coup dans son passé pour se rappeler ce qui s'est passé. Et nous, on va découvrir en tant que spectateur ce qui lui est arrivé et comment est-ce qu'il va s'en sortir. Comment est-ce que ça parle aussi, c'est limite éducatif. Ça parle de comment est-ce qu'on encadre des jeunes à problème qui sont dans des problèmes extrêmes où ils sont totalement perdus et où il leur faut un cadre, c'est très compliqué de leur donner.
J'ai été touchée par tous les personnages, autant ceux qui ont commis des actes affreux, c'est-à-dire qu'en fait, ce qui est bien dans ce film, c'est qu'il y a de l'empathie. C'est-à-dire qu'il y a de l'empathie qui sort de l'écran et du coup, nous, on arrive à restituer cette empathie-là. C'est-à-dire que ça fait naître de l'empathie aussi chez nous parce que je trouve que les personnages sont bien présentés déjà. Ils ont, y a une profondeur dans l'exposition des personnages. C'est efficace parce qu'on arrive à comprendre tout de suite en fait, d'où ils viennent, ce qu'ils ont vécu. On le découvre parfois au fur et à mesure, mais ce n'est pas laissé de côté. C'est-à-dire que même les personnages secondaires, etc., il y a quand même quelque chose qui va ressortir, où on va, il y a une ligne de dialogue comme ça qui va faire comprendre que voilà, il s'est passé telle et telle chose. Ça montre aussi que c'est pas forcément quelque chose dont on doit ça montre que ce sont pas des personnes dont on doit se méfier, c'est-à-dire que qui sont foncièrement mauvaises. Voilà, on arrive à comprendre quand même que c'est des personnes qui ont vécu des choses traumatisantes, qui sont jeunes. Donc, ils ne savent pas forcément comment le gérer. Et on apprend justement au fur et à mesure qu'ils sont dans un environnement qui essaye de les remettre d'aplomb. Ce qui est vachement dur aussi à encaisser parfois, c'est que justement, on sent qu'ils veulent être aidés, mais qu'ils n'arrivent pas à se laisser aller en fait. Ils n'arrivent pas à lâcher prise et à se dire « Ok, j'ai besoin d'aide et je vais accepter cette aide ». C'est-à-dire qu'il y a toujours cette colère qui est renfermée. On le voit par exemple avec Enzo qui intériorise tout et à un moment donné, pendant une séance de psychobox, on sent la rage qu'il habite et il l'extériorise non en frappant, en donnant des coups à ses éducateurs, mais sur le tapis et il extériorise absolument toute la rage sur le tapis. Et franchement, c'est quelque chose de... C'est comme tu le disais, c'est viscéral quoi. Moi je l'ai vraiment ressenti sa rage. J'étais là, je me disais, si j'étais à sa place et que j'avais vécu autant d'atrocités, je pense que moi aussi je perdrais les pédales quoi.
Mais surtout, ce qui est intéressant avec Enzo, c'est le retournement même du personnage. Il ne le retourne pas, tu vois, comme je disais tout à l'heure dans Factory, ça ne se retourne pas comme une crêpe avec tiens, tout à coup, il est gentil ou il est méchant. C'est graduel et c'est très bien pensé. C'est-à-dire qu'on te montre qu'ils se croient en prison, les gamins. Ils ont vu comme beaucoup de gosses, ils ont dû voir aussi des films carcéraux où ils pensent qu'il faut faire sa petite loi quand t'es là-bas, qu'il faut être le chef. Donc du coup, quand Eddie arrive dans cet endroit, il y a Enzo qui fait un petit peu office de gros meneur parce qu'il insulte tout le monde, parce que dès l'instant qu'on le provoque, il est uniquement dans la violence parce qu'il fait des représailles. Il y a un autre garçon qui arrive, Mo, et à partir de là, Mo a envie de s'imposer. Et du coup, c'est Enzo qui devient victime de tout ça et qui commence à subir des choses. Ou à ce moment-là, alors que c'est assez marrant parce que même nous, en tant que ressenti de spectateur, quand on voit Enzo parler, on voit des trucs, on se dit des fois, la paire de gifles quoi. Et à partir du moment où il commence à prendre, t'es là, tu fais, c'est pas justifié, c'est pas normal que ce gamin se fasse frapper. Alors que on serait pas dans un film qui parlerait de ça, on verrait un gamin parler comme ça, se comporter comme ça, faire des actes comme ça. Le moment où tu auras presque l'impression d'avoir un payback en disant ça y est, putain, il a pris son petit coup dans la gueule, ça va le calmer. Là, pas du tout. Mais après, c'est vrai que même dès le début du film, tu le vois, il insulte tout le monde, il est ultra vulgaire, il est toujours dans la provoque, tu le regardes à peine, il veut t'exploser. Mais il n'y a pas cette espèce de putain, c'est quoi ce gamin ? Moi, il n'y a aucun moment où je me suis dit putain, je vais le défoncer ce gosse. Non, parce que dès le début, on sait dans quel cadre on est, le cadre est très bien posé. Et directement, on se dit, ok, c'est un jeune en colère, quoi. Et il y a un problème, et ils sont dans un centre où ils ont tous des problèmes. Donc il faut le comprendre. C'est un film, voilà, comme on le disait, qui est très en colère, avec beaucoup, beaucoup d'énervement. Alors du coup, au niveau du jeu, c'est compliqué. C'est pas toujours simple, tous les acteurs ne sont pas égaux, mais en même temps, la grande majorité, c'est des gamins qui ont dit d'hurler, d'être en colère tout le temps, et tout le temps d'être dans l'insulte. Donc j'imagine que c'est très compliqué à gérer. Après, moi, j'aurais peut-être un peu plus de réserve sur les éducateurs, où par exemple, t'as Mathieu Longat, là, qui est le gars de Bonjour Tristesse, qui joue un éducateur. Le mec joue très mal, et voilà, enfin, c'est pas contre lui, hein, mais si t'es pas acteur, t'es pas acteur. Et en plus, en fait, t'as des notes parce que t'as Jalil Lesper et tu as Aïssa Maïga, qui eux sont très bons. Et du coup, dès l'instant qu'ils sont tous ensemble dans une pièce, tu vois bien qu'il y a des comédiens qui sont moins bons que d'autres. On va commencer à dévoiler des éléments plus annexes dans le scénario, donc allons-y. Moi, j'ai eu peur au moment de l'évasion. Parce qu'à un moment, du coup, donc Enzo qui devient victimisé alors qu'il victimisait Teddy se fait aider par lui et ils arrivent à s'enfuir. Après une scène très violente, on comprend que la mère de Teddy donc voilà, a quitté son mari parce qu'il était trop violent et qu'elle voulait se protéger, que du coup, le mari a réussi à garder les gosses, enfin, par un concours de circonstances, même pas légalement, mais du coup, s'est déchargé sur eux. Donc, ça a fini comme ça a fini, hein, il s'est fait tuer par l'un des gamins. Et donc ils partent à Amsterdam, enfin ils s'enfuient pour retrouver la mère de Teddy à Amsterdam. Et moi il y a un moment où je me suis dit, j'ai eu l'impression que le film allait finir là-dessus. Et que ça allait finir sur, on vous dit quand même que dans un truc comme ça, t'as le droit de te casser, t'as aucune représailles. Et non, finalement le système les rattrape. Alors je sais pas en quelle mesure une psychologue et un éducateur ont le droit d'aller jusqu'aux Pays-Bas pour récupérer un gosse et que c'est pas à la police de gérer ça. Je sais pas, j'ai trouvé ça très bizarre. Mais d'un autre côté au moins voilà, le système les rattrape, ça donne une conclusion, ça repart sur un autre truc. et on nous montre que voilà, bah, tu dois faire quelque chose et le cadre légal reste présent.
Ce qui m'a étonné, c'est qu'il puisse se rendre de France jusqu'en Hollande sans rencontrer un flic. Enfin, s'ils ont rencontré un flic à la sortie de l'établissement. Ouais, à la sortie du centre. Mais je veux dire, sur la route, rien du tout. Après, je connais pas le fonctionnement des frontières. Étant donné qu'ils ont changé de voiture, enfin qu'ils changent de véhicule à un moment donné, etc., je vois pas comment ils les ont retrouvés aussi rapidement, parce que le voyage, il doit prendre...
5-6 heures, j'irai en général, quoi.
Non, mais depuis leur départ, depuis leur départ, ils ont dû prendre quelque chose comme une journée et demie pour les retrouver, quoi. Je trouve ça vachement efficace, quand même. Si ça pouvait être comme ça dans la vraie vie, hein.
Ah, en même temps, ils sont allés sur un terrain balisé, quoi. Je veux dire, il suffisait de savoir où était la mer, ils l'ont su facilement, oui. Ils se sont dit, bon, où est-ce qu'ils vont aller d'autres, quoi. Mon frère, un film qui laisse une impression très forte. Moi, ça me laisse un goût assez amer parce que quand même, malgré tout, faut s'encaisser ce rythme qui est constant, mais qui laisse des respirations quand même, avec des beaux personnages. Mais tous, au final, même ceux qui sont là pour être détestés, au final, sont quand même expliqués par des traits de caractère, par un passif qu'on t'explique. Et même si y a pas grand-chose qui les rachète dans leurs actes actuellement, faut pas oublier que c'est des enfants. Et c'est compliqué, et c'est clair que moi, là, clairement, je pourrais pas être éducateur dans ce genre d'endroit, je sais pas si j'aurais la patience pour faire ça, donc un grand chapeau à ceux qui tiennent ce genre d'endroit.
Qu'il y a soit du vécu, soit il y a eu du travail en amont qui a été fait, quoi. C'est pas à l'arrache.
En ce moment, j'ai l'impression qu'on va avoir des beaux films français sur la jeunesse. La salle était pleine à craquer, il y a des gens qui venaient, qui s'asseyaient à l'arrache, il y a un vigile qui est venu pour enlever trois nanas qui étaient au fond de la salle et leur proposer de s'asseoir aux places qui étaient dispersées pour qu'elles soient pas ensemble, mais pour que les gens puissent être tranquilles. Enfin, c'était cool, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui, avant la fin de la séance, ont débarqué pour s'asseoir, ont capté que c'était pas la fin de la séance et sont repartis. C'était plein. Bon, la salle était petite. Moi, il y avait Thomas qui avait essayé d'y aller mardi soir en avant-première et c'était plein à craquer. Il a pas pu y aller. C'est super chouette qu'un film comme ça, en tout cas, fonctionne. Je sais pas quels sont ses chiffres réels, mais ça a l'air de bien marcher. Moi, je pense aux Misérables de Lajli qui arrive et qui traite pas forcément du même sujet, mais va quand même traiter des mêmes milieux. Ça m'intéresse beaucoup. Je pense à La vie scolaire de Grand Corps Malade, qui va sûrement parler aussi de l'éducation française, de plein de choses. Ouais, j'ai l'impression que 2019, c'est un beau terreau pour ça. Et parlez-en avec autant de justesse. C'est cool, ça fait plaisir et il faut faire parler la jeunesse, quoi. Voilà. On vous conseille vivement d'aller voir ce film. C'est allez-y préparer, hein, si vous avez envie de voir une bonne comédie ou un gros film d'action pour vous détendre, c'est peut-être pas là qu'il faut aller. Mais par contre, ouais, si vous voulez voir un film juste sur la jeunesse, allez-y. Voilà, voilà. Et c'est une fin d'enregistrement pour cet épisode de Claque. Salut Yassa.
Salut Thierry.
Bon alors, si on fait un petit bilan là, toi du coup, des trois films qu'on a vus, donc Factory, Beau-frère et hier quand on a vu Les Faussaires de Manhattan, qu'est-ce que tu retiens toi de cette semaine ?
Je retiens qu'il y a quand même pas mal de bons films cette semaine. Je m'attendais vraiment, sur les trois films que je suis allée voir moi, je m'attendais vraiment à soit m'ennuyer à mourir, soit m'ennuyer moyennement. Voilà, c'est-à-dire que ça volait pas très haut, quoi. Mais franchement, pour les trois, je suis assez satisfaite, voire même pour mon frère, que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Sinon, même les deux autres, ce sont trois films que j'ai vus qui étaient assez calmes, donc il n'y avait pas de la baston, il n'y avait pas de... il n'y avait pas de magie, etc. C'était...
C'était pas les films approuvés par Yassa en général.
Voilà.
Donc le coup de cœur, c'est Mon frère pour toi et la recommandation de la semaine.
Ouais, franchement, faut aller le voir. Même si vous n'êtes pas dans l'ambiance, mais ça va vous mettre dans l'ambiance.
Ok. Bon, moi personnellement, je ne suivrai pas ta recommandation parce que Midsommar me reste encore en tête. En même temps, c'était hier, là, au moment où on enregistre. Mais Mon frère se hisse juste derrière. C'est des films très différents. Midsommar est une énorme claque qui, je pense, restera pour moi dans un énorme top de l'année. Si je devais en établir un maintenant, il n'y a pas beaucoup de films. Et il y est. Mais derrière, ouais, Mon frère le talonne. Mais je te suis sur le fait que les deux autres films étaient plaisants, même si j'ai quand même beaucoup moins aimé Factory. Et j'étais assez réticent sur Les Faussaires, mais c'était quand même pas un mauvais moment. Voilà, c'était plutôt une semaine sympathique. C'était Certain la Macho. Merci à vous de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Évidemment, la meilleure solution si vous avez envie d'écouter d'autres épisodes, c'est déjà d'écouter les épisodes qui sont passés et que vous avez ratés, mais aussi de vous abonner pour avoir la petite notification à chaque fois qu'un nouvel épisode arrive. En attendant, nous, on va se rentrer, on va préparer la semaine prochaine parce que il faut bien vous fournir un épisode, et on vous fait des bisous. Bisous, bisous.
Bisous.
Midsommar de Ari Aster. Ou Astier. Ah non, Aster. À un hypré, on avait un génie.
Oh, on va faire un jingle pour les scuds.
Ça, je vais méchamment le couper, ça.
Ça sera méchamment remis.